Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré à l'hôpital face à la Covid. À l'ordre du jour ce soir, l'hôpital est-il armé pour la deuxième vague ? Depuis la semaine dernière, les reportages et interviews se multiplient afin de comprendre ce qui se passe dans les services hospitaliers face à la fameuse deuxième vague tant attendue. Dans le même temps, plusieurs collectifs et syndicats hospitaliers appellent à manifester et à faire grève pour réclamer des embauches massives immédiates et une revalorisation significative des salaires. Beaucoup des acteurs de l'hôpital demandent en effet des budgets supplémentaires et constate le manque flagrant de personnel hospitalier qui font défaut, d'autant que la première vague a submergé des vocations. Nous allons en parler avec quatre invités ce soir. Michael Perromor, bonsoir. Vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin et vous êtes auteur de « Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit » chez Albin Michel. Bérangère Arrojo, bonjour. Vous êtes infirmière en réanimation à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et également représentante de la Fédération nationale des infirmiers de réanimation. Avec nous également au téléphone depuis Marseille, le docteur Véronique Veit, bonsoir.
Bonsoir.
Chef de l'unité médicale aiguë polyvalente, responsable d'unité Covid à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et enfin avec nous Marie Denier, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Laurentin.
Vous êtes directrice générale adjointe du CHU de Lille.
On se prépare, on sait qu'on va avoir plus de cas graves. Donc on se prépare, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a demandé aux hôpitaux d'activer tous leurs dispositifs de crise et d'avoir, ils ont tous les leviers pour mobiliser les personnels, notamment, c'est un sujet extrêmement lourd. Hein. C'est lourd pourquoi ? C'est lourd parce que ça va passer par de la déprogrammation. Ce mot, il fait un peu techno, déprogrammation, c'est très concret. Vous aviez une opération, une prothèse de la hanche qui était prévue, peut-être même qu'elle était déjà prévue en avril, on risque de devoir la reporter une nouvelle fois. Donc pour les patients, c'est très clair ce que c'est la déprogrammation. Et pour les soignants, c'est aussi certains d'entre eux leur demander de repousser leur congé.
Vous avez commencé à le faire ?
Eh bien, les hôpitaux s'organisent et oui, ça a commencé à être fait dans certains hôpitaux en effet.
Voilà, il s'agissait d'Aurélien Rousseau, directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. C'était lundi matin sur BFM Télé. Alors, activer tous les dispositifs de crise, déprogrammer des opérations non urgentes, cela fait partie des termes que l'on utilise depuis maintenant 2 semaines au moins. Docteur Véronique Veit, est-ce que c'est le cas de ce que vous connaissez vous-même à Marseille, à l'hôpital de la Timone ?
Alors, actuellement à Marseille, clairement, les dispositifs ont commencé à être mis en place, en particulier dans les lits de réanimation, où on a augmenté les capacités de réanimation très tôt dans ce retour d'épidémie, dès fin août, début septembre. On nous a donné des moyens, ça on y reviendra probablement, pour ce qui est des déprogrammations. Je dirais que l'obsession, en tout cas sur Marseille, et je crois que c'est vrai dans beaucoup de villes, notre obsession actuelle, et ça c'est un objectif supplémentaire par rapport à la première vague, c'est justement de permettre de gérer 2 flux en même temps, à savoir les patients Covid qui reviennent en effet ces dernières semaines, mais de conserver une activité, je dirais, normale, non Covid, pour ne pas avoir, ou en tout cas avoir le moins possible à déprogrammer, ne pas se retrouver en situation comme au printemps. Il est, pour nous, c'est vraiment une priorité de gérer autant que faire se peut les 2 flux pour éviter des pertes de chance.
Oui, Marie Denier, du côté de Lille, vous êtes directrice générale adjointe du CHU de Lille. Est-ce que vous en êtes au même point qu'à Marseille ?
Alors, nous n'en sommes pas tout à fait au même point qu'à Marseille, mais une chose est sûre, c'est que nous nous préparons et nous apprenons à vivre avec ce virus. Alors, pour ce qui concerne la situation lilloise, elle est très particulière sur la métropole, elle n'est pas généralisable sur l'ensemble de la région. La métropole est plus touchée aujourd'hui par un taux d'incidence qui évolue rapidement, qui grimpe, et nous avons vu très nettement une accélération des entrées à l'hôpital depuis environ 5-6 jours. Ça touche le CHU, ça touche aussi les centres hospitaliers autour de nous à des rythmes un peu différents. Et donc, quand je dis que nous nous préparons, nous avons déjà évidemment activé un certain nombre de dispositifs qui sont similaires à ce que les hôpitaux marseillais ont engagé sur les réanimations et la médecine. Et nous préparons surtout l'étape d'après, parce que je crois que c'est la grande leçon qu'on a tirée et sur laquelle on peut capitaliser de la première vague, c'est de garder toujours ce temps d'avance, c'est-à-dire de préparer la suite, les capacitaires supplémentaires qu'il va falloir ouvrir. Donc à Lille, on est dans cette phase et nous sommes prêts pour la fin de semaine, puisqu'a priori, la dynamique ne se dément pas et on devrait à nouveau avoir une accélération là de nos entrées à l'hôpital.
Bérangère Arrojo, vous êtes infirmière en réanimation à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en région parisienne, et également représentante de la Fédération nationale des infirmiers de réanimation. Qu'en est-il là où vous travaillez ?
Alors moi, je vais parler de ce qui est mon quotidien, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment du concret. Donc les mesures théoriques prises, concrètement, ça se résume à un effectif constant, avec donc une charge de travail qui augmente. C'est-à-dire que à la deuxième vague, là, nous, on nous a dit qu'on serait pas plus, qu'on serait le même effectif que d'habitude, et qu'il fallait déménager. Concrètement, comment ça se passe un déménagement à l'hôpital ? Ça veut dire Henri Mondor, c'est 7 lits supplémentaires, 10 étages plus haut que l'effectif, enfin, que le service ordinaire. Donc ça veut dire déménager du matériel, trouver du matériel.
Donc, déménager pour trouver de la place pour pouvoir rajouter.
En fait, on utilise les locaux qu'on avait utilisés pour la première vague, donc qui sont ouverts, qui étaient entre guillemets vides par un transfert d'activité qui a eu lieu l'année dernière. Donc voilà des locaux qui sont habilités à recevoir des patients, hein, mais qu'il faut donc armer. Donc ouvrir des lits, ça veut dire encore une fois des lits, concrètement, des scopes, des pouces seringues, des pieds à perfusion, des draps, toute la logistique de consommables. Donc ça veut dire que faut déménager sur nos jours de travail, donc avec des patients à charge. D'accord.
En même temps que les patients.
Bien sûr, il faut faire ça. Il n'y a pas de personne supplémentaire pour déménager. C'est-à-dire que vous avez vos patients à charger. En plus, il faut déménager. Il faut donc que la logisticienne du service, qui a donc déjà 25 patients à charge, qui est déjà donc très occupée le reste du temps, s'occupe d'armer l'étage 10 étages plus haut. Hein. J'insiste sur les 10 étages plus haut parce que bien sûr, ça fait partie des complications. Donc la secrétaire qui gère donc deux services, voilà, on finit par déménager malgré nous, et donc voilà, nous avons 7 lits supplémentaires, donc 7 patients supplémentaires avec une infirmière de plus par jour par équipe. Ça veut dire donc concrètement plus de malades à charge.
Michael Perromor, vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin. Dans Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit, chez Albin Michel, vous expliquez ce qu'a été la première vague, là où vous êtes, et vous dites effectivement que vous étiez en deuxième ligne. D'une certaine façon, vous n'étiez pas parmi les hôpitaux qui ont été en première ligne de cette grande vague Covid qu'on a connue au printemps. Mais néanmoins, j'imagine que un service comme le vôtre aussi se prépare au cas où à accueillir de nouveaux malades.
Bien sûr. Effectivement, pendant la première vague, et la seconde devrait a priori y ressembler beaucoup, l'hôpital était scindé en fait en deux types de services. Il y avait les services médicaux et les réanimations qui s'occupaient donc directement des patients Covid, et il y avait les autres, en particulier les services de chirurgie, là où moi je travaille, qui ont été vidés littéralement de leur lit, de leur matériel et de leur personnel. Et donc, même si ça n'a pas encore commencé, les déprogrammations, pour l'instant en tout cas, on s'apprête dans les semaines qui viennent à devoir le faire si les réanimations sont saturées.
Le titre de notre émission, c'est « L'hôpital est-il armé pour la seconde vague, la deuxième vague ?» puisque on ne sait pas s'il y en aura une troisième, on ne l'espère pas, mais enfin, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous en pensez, Michael Perromor et les autres invités ? D'abord, Michael Perromor.
J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que les pratiques ont évolué, les traitements sont meilleurs, on donne maintenant des corticoïdes, on donne des anticoagulants, ce qui améliore en fait le pronostic des malades, et puis il y a l'expérience des personnels, l'expérience de cette première vague. Donc ça c'est pour le côté oui, mais d'un autre côté j'ai envie de dire non, parce que les lits supplémentaires, nous en tout cas à l'hôpital où je travaille, on ne les a pas vus, et je peux même dire qu'il y en a moins qu'au printemps, par manque de personnel, parce qu'entre les deux vagues, il y a du personnel à Cochin qui est parti de l'hôpital public. On a eu une fuite de personnel. Et donc, je suis assez inquiet, parce que si d'un côté les pratiques se sont améliorées, de l'autre, on n'a toujours pas la ressource humaine pour faire face à une deuxième vague, si tant est qu'elle est aussi importante que la première.
Bérangère Arrojo, cette question des personnes qui ont, entre guillemets, démissionné, qui sont sortis de l'hôpital public entre la première et la seconde vague, c'est une question qu'on retrouve de loin en loin dans la documentation. Est-ce que vous pouvez en témoigner aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui, d'une certaine façon, devant l'ampleur de ce qui s'est passé au printemps et au début de l'été, ont décidé de quitter le métier d'une certaine façon et qui n'ont pas été remplacés par pourtant les personnels qui arrivent des écoles, à la sortie des écoles, comme ça arrive à chaque année?
Je pense que le problème, c'est pas vraiment le Covid. C'est la Covid met en lumière un problème, un dysfonctionnement de fond qui dure depuis très longtemps et qui ne font que précipiter les choses. C'est-à-dire que là, il y a des chiffres qui disent que la moitié des infirmiers ou plus de la moitié des infirmiers veulent changer de métier.
J'avais 40% dans les sondages, mais enfin, c'est à peu près la même chose, effectivement.
Oui, vous avez raison. Mais ça veut dire que pour l'instant, ils sont retenus très certainement à l'hôpital ou dans leur métier en tout cas par l'activité, mais ça veut dire que ce sont des gens qui vont partir en plus dès qu'ils en auront l'occasion.
Véronique Weidt et ensuite Marie Denier, c'est la même chose là où vous vous trouvez?
Alors j'ai envie de dire aussi, on peut pas répondre de façon binaire, on est mieux armé que pour la première vague. C'est vrai qu'il y a une amélioration des pratiques et donc une meilleure connaissance qui fait que vous allez en fait diminuer la durée de séjour des patients, en particulier en réanimation.
C'est-à-dire, elles passent de combien à combien? Parce que je crois que c'était entre 2 et 4 semaines minimum pour...
Voilà, on était à peu près autour de 21 jours sur la première vague. À l'heure actuelle, 50% des patients ne sont plus intubés, ce qui permet d'avoir une durée moyenne de séjour qui, pour 50% des patients, est à 7 jours. Donc, vous allez avoir une fluidité des lits de réanimation qui va être augmentée. Donc sur le plan des pratiques, on s'est amélioré, on est mieux armé. Il faut dire quand même que sur le plan du matériel, c'est-à-dire tout ce qui est équipement de protection individuelle, tout ce qui est respirateur, etc., on est quand même plus du tout dans la même situation.
Il n'y a pas de mal par rapport à la première vague, il n'y a pas de mal.
C'est le moins qu'on puisse dire. On a quand même également, on a plus de tension sur certains médicaments extrêmement importants en réanimation. Donc sur des choses matérielles, il y a du bon, il y a du mieux, on est mieux armé. Je rejoins les autres invités sur le problème des personnels. Moi, je suis très agacée quand j'entends le public dire oui, il faut recruter des infirmières en grand nombre. Une infirmière, c'est des filles qui sont des vraies techniciennes, particulièrement en réanimation. Vous n'allez pas former une infirmière en 15 jours, ça n'est pas vrai, surtout pas pour des infirmières de réanimation. Et surtout, vous ne trouvez pas les personnels, parce qu'en effet, l'hôpital n'est pas très attractif à l'heure actuelle.
Même après le Ségur de la Santé
et les augmentations
supposées de salaire.
Mais bien sûr, parce que c'est un malaise hospitalier qui dure depuis des décennies. Vous ne réglez pas un malaise et des dysfonctionnements de 20 à 30 ans en 6 mois.
Marie Denier, vous qui dirigez en tant que directrice générale adjointe un CHU, est-ce que vous avez du mal à recruter justement infirmières, aides-soignantes ou aides-soignants dans votre hôpital?
D'abord, sur la question de savoir si nous sommes mieux armés, définitivement oui, je rejoins ce qui a été évoqué. Nous connaissons quand même mieux la maladie. Nous travaillons aussi différemment entre acteurs sur un même territoire. Il y a des alliances très fortes avec les infirmiers libéraux qui viennent nous soutenir. Donc nous avons trouvé des façons de fonctionner nouvelles et qui nous permettent de faire face à cette deuxième vague, je trouve, avec un peu plus de sérénité. Maintenant, ne nous voilons pas la face, il y a une fatigue, il y a une lassitude parmi les hospitaliers après les énormes efforts qu'ils ont fournis ces derniers mois, et il y a un peu d'inquiétude aussi. Nous observons, nous, à Lille, un taux d'absentéisme qui est supérieur à ce qu'on connaît d'habitude dans nos hôpitaux.
Il est de combien environ ce taux d'absentéisme?
C'est une réalité. Nous avons une augmentation sensible sur le mois de septembre qui correspond à peu près à 1500 personnels absents tous les jours, ce qui représente, si vous voulez, une hausse entre 10% d'habitude. Nous sommes plutôt à 12% ouais. Actuellement. Donc elle est relativement sensible. Nous avons des personnels qui sont malades, il y en a d'autres qui ont dû faire face aussi à des évictions scolaires. Il y a toutes sortes de motifs qui peuvent expliquer ça. Et puis, je l'ai dit, une fatigue qui s'est installée. C'est une réalité, hein. Il ne faut absolument pas la nier. Pour autant, nous avons lancé des campagnes de recrutement qui ont rencontré un écho positif. Hein. Ouais. Nous avons trouvé et des infirmières et des aides-soignants. Maintenant, je rejoins ce qui a été évoqué. Le vivier n'est pas inépuisable.
Oui.
Ces compétences, ce sont des compétences qu'on peut acquérir avec une formation dans la durée. Et nous savons très bien qu'il existe un plafond et qu'on doit faire d'une certaine façon avec voilà, les ressources qui sont disponibles aujourd'hui. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Tout en ménageant aussi autant qu'on le peut nos équipes.
Même si le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors de sa conférence de presse de jeudi dernier, rendait hommage évidemment aux soignants et aux soignantes.
Nous tenons à vous, soignants. Nous vous remercions pour votre mobilisation de tous les instants. Et j'en profite pour appeler celles et ceux qui le peuvent également à rejoindre les renforts à travers la réserve sanitaire ou les plateformes régionales pour venir prêter main forte, notamment dans les EHPAD, mais également dans les hôpitaux. Et enfin, un mot aussi pour les soignants qui, en ville, se battent avec cette épidémie, qui font partie de ces premières lignes. À mesure que la pression épidémique augmente, les soignants sont soumis également en ville à un travail toujours plus fort et intense. Donc, un merci pour les soignants.
C'était le ministre donc de la Santé, Olivier Véran, qui évoquait justement cette relation entre public et privé. Vous la ressentez là où vous vous trouvez, Michael Perromor, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin. On a dit souvent, bien voilà, il y a eu une mauvaise coordination lors de la première vague entre l'hôpital public et de l'autre côté les hôpitaux ou les cliniques privées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vrai d'abord pour la première vague, et puis est-ce qu'ensuite ça s'est amélioré, permettant justement de combler des manques, peut-être des manques budgétaires ou des manques de personnel à l'hôpital public?
Alors, pendant la première vague, on a eu des gens qui venaient prêter main forte à l'hôpital Cochin où je travaille. Et ces gens-là, ces soignants, médecins et paramédicaux, venaient soit d'hôpitaux publics d'autres régions. Et là, on pourrait croire que ces gens-là vont moins pouvoir venir, puisque les autres régions sont touchées également maintenant.
Bien sûr.
Soit du privé. Donc ça, c'est une réalité. Mais ce que je sais aussi, pour avoir pas mal de collègues qui travaillent dans le privé, c'est que les ARS ont demandé aux établissements privés d'arrêter purement et simplement leurs activités, en particulier chirurgicales, pour pouvoir prendre en charge des malades Covid. Sauf que on leur a pas adressé de patients Covid. Et vous avez donc beaucoup de cliniques privées qui ont été totalement asséchées financièrement sans même pouvoir accueillir des patients. Et je sais que ça fait pas mal de scandales.
Mmh. Oui, voilà. Sur ce point, la collaboration du privé, des libéraux, du public dans la manière de faire face à une vague nouvelle de la Covid, Bérangère Arangeau?
Moi, je travaille dans un milieu un petit peu enclavé. J'ai pas d'opinion là-dessus sur la dispersion de l'activité de réanimation dans le privé ou dans le public.
Et pour vous, Véronique Veit, justement, est-ce que ça fait partie des solutions potentielles, justement, à l'arrivée d'une seconde vague, de faire attention, justement, à cette répartition entre public et privé, entre libéraux, médecins libéraux, etc.?
Alors là encore, pour cette deuxième vague, entre guillemets, c'est vrai que nous, on a un gros parc privé sur Marseille. Il y a tous les établissements qui disposent de lits de réanimation prennent une part des patients en réanimation à l'heure actuelle. De même que les plus grosses structures privées de Marseille ont ouvert des unités de lits conventionnels, ce qui n'était pas le cas la première vague. Après, pour ce qui est du renfort, là encore, la grosse différence, c'est comme la première vague, toute l'activité réglée était arrêtée, donc ce qui fait que les gens étaient libres, pouvaient venir nous renforcer, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle, puisque l'activité réglée continue, donc chacun est à son poste, j'ai envie de dire.
Oui, et du côté de Lille, au CHU de Lille, où vous êtes directrice générale adjointe, Marie Denier?
Oui, la collaboration publique-privé, c'est une des solutions, bien sûr. Mais ça a été rappelé à l'instant, il n'y a pas de déprogrammation massive, il n'y a pas de mot d'ordre aujourd'hui au niveau national. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la même situation que la première vague. Pour autant, nous avons, nous, des échanges nourris, quotidiens avec nos partenaires du privé. Je rejoins ce qui a été évoqué sur le rôle de régulation des agences régionales de santé, qui parle à l'ensemble des acteurs, hein, du du système de soins dans leur région et qui demandent des plans progressifs de déprogrammation avec des ouvertures de capacités supplémentaires. Et c'est ce qui se passe aussi sur notre territoire, dans le privé, dans le public et en lien avec la médecine de ville pour un certain nombre de dispositifs. Ce partenariat, il existe j'allais dire, nous avons tous intérêt à jouer ce jeu puisqu'il faut absolument préserver, c'est une grande préoccupation des CHU, nous avons intérêt absolument à préserver l'accès à l'hôpital, l'accès aux soins et notamment pour ce qu'on appelle le recours, c'est-à-dire les malades les plus lourds.
Ouais. Est-ce que justement le fait que l'épidémie aujourd'hui s'est répandue sur l'ensemble du territoire national change quelque chose par rapport à cette première vague qu'on a connue, Bérangère à Rougeau, c'est-à-dire que ces transferts de malades d'une région à l'autre, cette façon de décharger les services qui étaient trop chargés par le nombre de malades qui arrivaient, est-ce que cela, évidemment, ça pose une nouvelle question à l'hôpital public en particulier ?
Oui, ça fait partie des problématiques aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la dynamique de la première vague et la deuxième, la gestion des deux périodes seront complètement différentes. La différence, voilà, pour la deuxième vague, c'est que il y aura pas de renfort, très certainement, parce que voilà, tout le territoire est atteint, que aussi il y a certainement de l'épuisement, tous les gens qui sont venus dans un premier temps nous aider. Parce que nous, on a ouvert 85 lits de réanimation pour la première vague.
À Henri-Mondor. À Créteil.
Voilà, on a eu un afflux massif de renforts. Voilà, il y a aussi plein de gens qui ne veulent pas revenir et revivre aussi ces moments qui ont été extrêmement difficiles pour tout le monde. Voilà, donc il n'y a pas non plus de transfert de patients possible. Et la déprogrammation se fera pas sans conséquence, hein, pour des fois des spécialités qui sont déjà en retard du fait de la première vague.
Vous écoutez donc le temps du débat. Nous avons quatre invités, Michaël Perromor, Bérangère à Rougeau que vous venez d'entendre, Véronique Veit et Marie Denier. Et le thème de l'émission de ce soir, c'est l'hôpital est-il armé pour la deuxième vague? Il est 18h42 sur France Culture.
Une chanson d'amour pour les gens du secours, pour les gens du secours.
France Culture.
À votre cœur que rien ne blesse vos grandes vies. Merci pour tout, merci pour tout, merci.
Le temps du débat.
L'infirmière dans le mauvais temps, qu'elle avait donc du courage. L'infirmière dans le mauvais temps. Tous derrière, l'infirmière dans le mauvais temps, tous derrière et elle.
Emmanuel Laurentin.
Je ne sais pas si vous avez remarqué combien le temps file. On a l'impression que c'était il y a quelques années. Ça n'était qu'il y a un peu plus de 6 mois. C'était Pascal Obispo, Florent Pagny, Marc Lavoine, Vanessa Paradis, Thomas Dutronc, chantant pour les soignants et les soignantes à l'occasion de la première vague de la Covid. Michaël Perromor, vous qui êtes dans un service d'urologie, donc pas directement touché a priori par la question donc de la Covid, vous êtes à l'hôpital Cochin à Paris. Est-ce que vous vous faites du souci? C'est ce que vous dites dans votre livre, ou les premières pages de votre livre qui évoquent la première vague disent, vous dites, eh bien, je me faisais des soucis pour mes patients qui n'étaient pas prioritaires dans un contexte Covid. Est-ce que vous faites à nouveau du souci pour ces patients qui ne seront pas prioritaires dans le cas d'une deuxième vague très importante?
Bah, effectivement, dans ce cas-là, si on est amené à nouveau à déprogrammer, ça dépend bien entendu du nombre de gens qu'on doit déprogrammer. On peut, je pense, raisonnablement déprogrammer peut-être un tiers, voire la moitié des interventions de chirurgie, en tout cas pour un service comme le mien. Il y a d'autres services, par exemple en ophtalmologie, où on peut quasiment tout déprogrammer, parce qu'il y a assez peu de cancérologie et d'urgence. Donc ça dépend de la discipline. Mais je suis assez inquiet parce que on n'a toujours pas récupéré la totalité des patients qu'on avait différés lors de la première vague. Et on a vu quand même, c'est vrai, même si c'est pas un nombre très spectaculaire, on a vu des cancers progresser, on a vu des complications à cause de retards de prise en charge. Mmh. Et c'est vrai que recommencer ça serait un peu pénible et dangereux.
Pour vous, Bérangère à Rougeau, j'imagine qu'en tant qu'infirmière en réanimation, à Henri Mondor à Créteil, il n'y a pas en réanimation évidemment que des malades Covid. Les autres, comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'on pousse les murs jusqu'à la possibilité justement de les transférer si on ne peut pas les recevoir à cause d'un afflux de malades Covid?
Oui, je pense que voilà, en tant que représentante de l'AFNIR, on a
la Fédération nationale des infirmiers en réanimation.
Voilà, on échange tous sur cette question-là, et un petit peu partout, le constat il est que bien sûr qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font au détriment des pathologies non Covid. Et en tout cas, c'est le risque qui est sous-jacent. Mmh. Nous, notre réanimation, il y a encore quelques jours, était pleine sur l'étage non Covid. Donc il y a une demande forte des patients qui sont des pathologies. Il faut savoir que en temps normal, les services de réanimation hospitaliers ont une demande de remplissage d'environ 100%. C'est-à-dire que hors épidémie, les réanimations sont pleines.
Et toujours. Donc,
tout le temps pleine, pratiquement pleine. Donc c'est pour ça que le pic épidémique, enfin au pic de l'épidémie, on peut bien se dire que les choses sont très difficilement tenables pour ces services-là. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a une demande très forte des de patients qui n'ont pas le Covid.
Et donc évidemment, vous avez des réponses du style de celle d'Olivier Véran, ministre de la Santé, en marge d'un déplacement à l'hôpital Nord-Franche-Comté pour une inauguration à Trévenans, dans le territoire de Belfort. C'était vendredi dernier, à propos des lits à la demande.
L'idée, c'est que prenez un hôpital comme celui-ci, qui est en période d'épidémie. Imaginez que vous avez une grosse épidémie de grippe cette fois-ci et qu'il y ait des malades. Eh bien, l'hôpital peut rapidement arriver à saturation. Des urgences qui sont pleines, des malades sur les brancards, pas de lit à l'hôpital pour pouvoir les accueillir. Et donc, ça met une pression très forte sur les soignants, mais ça met aussi une pression très forte sur les malades. Eh bien, il faut qu'on ait des lits à la demande, qu'on soit capable d'ouvrir quand c'est nécessaire et de refermer si la pression sanitaire diminue. C'est ce qu'on appelle des lits à la demande. Et je veux qu'ils puissent être ouverts dans les plus brefs délais, raison pour laquelle je débloque dès la semaine prochaine cette enveloppe de 50 millions d'euros. Ce sont des lits à la demande, c'est la demande des hospitaliers eux-mêmes que d'être capable déjà dans l'urgence et à très court terme, de pouvoir déployer des unités de 15, 20 lits dans des hôpitaux qui se retrouvent saturés dans des périodes particulières.
C'était le ministre de la Santé, Olivier Véran, vendredi dernier, lors d'un déplacement à l'hôpital Nord de Franche-Comté, à Trévenans, dans le territoire de Belfort. Eh bien, Véronique Weidt, est-ce que c'est lié à la demande? Vous savez ce que ça représente chez vous, à l'hôpital de la Timone à Marseille? Je demanderai la même chose à Marie Denier du CHU de Lille.
Alors j'ai envie de dire, j'apprécie le volontarisme du ministre de la Santé. Les lits à la demande, c'est très bien. Alors nous, sur le CHU, on n'a pas beaucoup de, en termes de cadastre, on n'a pas beaucoup de disponibilité. Mais le lit à la demande, très bien. Mais c'est le problème, c'est le personnel à la demande. Mmh. On n'a pas le personnel à la demande. Et en particulier, on n'a pas le personnel infirmier.
Ça veut donc dire qu'un lit sans personnel autour,
ça sert à rien.
Ça sert à rien.
Ah ben non.
Oui. Et pour vous, Marie Denier?
Alors, c'est vrai que plutôt que lit à la demande, on parle de lit saisonnier. C'est quand même une notion avec laquelle nous avons l'habitude de travailler depuis plusieurs années. Pour ce qui concerne mon CHU, chaque année, au moment des épidémies hivernales, nous avons la possibilité, nous sommes organisés pour pouvoir ouvrir des lits de médecine supplémentaires. Donc c'est quelque chose qu'on anticipe, puisque finalement rien n'est plus prévisible que l'épidémie de grippe ou que les épidémies chez les petits. Hein, je pense à l'épidémie des gastro, mais aussi des VRS. Donc chaque année, nous majorons nos capacités pendant 2, 3, 4 mois pour accompagner ces épidémies et accueillir ces patients à l'hôpital. Je rejoins cependant ce qui vient d'être dit. Les lits, c'est une chose, il faut du matériel, il faut du foncier, il faut du cadastre, il faut pouvoir s'installer quelque part. Donc ça s'anticipe et puis il faut un vivier de personnel qu'on peut activer et qu'on peut déployer sur ces périodes. On est tout à fait prêt à imaginer, et c'est aussi ce que la crise nous a enseigné, d'aller plus loin dans ces dispositifs adaptables pour les épidémies saisonnières ou pour des épidémies de type crise, et d'imaginer aussi d'avoir des viviers de personnel formés sur les soins critiques, la réanimation. Ça va demander encore un peu de travail pour être en capacité d'apporter cette réponse, puisque
on met
du temps à former ces personnels, mais c'est une bonne piste.
Oui, Bérangère Arrojo, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure à propos de monter les lits 10 étages plus haut, etc. Ça fait partie de... C'est ça, les lits à la demande dont parle le ministre?
Je ne sais pas exactement de quoi il veut parler, parce que, en fait, moi, je pense que le problème de fond, entre guillemets, c'est même pas l'attractivité, c'est même pas le recrutement des gens. C'est les départs, le vrai problème de l'hôpital. C'est-à-dire que on peut former des gens à tour de bras, visiblement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Nous, on a 30% de départs par an.
C'est constant.
C'est constant.
Et depuis plusieurs années.
Depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital est un broyeur à soignants. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur le problème de fond. Du coup, les gens arrivent avec des attentes, puisque le métier de soignant, on vient pas pour l'argent, on vient pas pour le salaire. Hein. L'attractivité, c'est des idéaux, c'est des valeurs, c'est des principes qui sont très vite lapidés par la brutalité managériale et le système comme ça. Donc du coup, les gens sont très rapidement déçus et enfin voilà. En fait, donc le vrai problème de l'hôpital aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir garder les soignants.
Ils partent où ? Ils partent dans le privé ? Ils partent pour changer de métier ? Ils font autre chose ?
Oui, alors il y en a beaucoup qui partent dans le privé. Faire d'autres spécialités éventuellement. Mais ce qui est frappant, c'est que personne n'a l'air de prendre en compte cette fuite de soignants, en fait, qui est liée donc principalement à une non reconnaissance en fait de la spécificité de chaque infirmière, c'est-à-dire que le métier d'infirmière, c'est pas on n'est pas interchangeable selon les services.
Oui, voilà. Et pourtant, le président de la République s'est rendu il y a quelques jours pour défendre la Fondation Rothschild, défendre l'engagement fort du gouvernement pour améliorer les conditions de travail des soignants. Michaël Perroman, vous avez fait partie en tant que chef de service d'urologie de ceux qui ont défendu, parfois sur les plateaux de télévision lors de la première vague, la nécessité de changer les choses, en particulier pour les infirmiers, infirmières, aides-soignants et aides-soignantes.
Oui, tout à fait. Je pense, comme ça a été dit d'ailleurs, que le malaise est très profond et que sans réforme vraiment véritablement structurelle de l'organisation des soins et même du système de santé en général, puisque l'hôpital pâtit du manque de maillage territorial dans le privé aussi. Vous voyez, tout ça est un ensemble. Je pense que ça n'est pas une revalorisation salariale qui permettra de refaire venir des gens à l'hôpital. Il y a une vraie désillusion, en fait. Les gens sont désabusés. Et puis peut-être aussi, hein, ça on en parle rarement, mais peut-être que le métier lui-même, peut-être que les gens veulent moins qu'avant s'investir dans le soin tout court. Ça n'a pas été, à ma connaissance, étudié, mais il est possible que le métier en soi intéresse moins les jeunes générations. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut absolument changer l'hôpital. Il faut faire des structures autonomes. Il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance à l'équipe. Il faut arrêter de mutualiser le personnel. Les gens ne sont pas des pions.
Ouais.
Il faut remédicaliser la gouvernance, il faut que les décisions retrouvent leur sens. Ça, c'est une certitude.
Véronique Weidt, à la Timone, où vous êtes responsable d'unité Covid. D'ailleurs, le simple fait d'avoir créé des unités Covid, c'est déjà quelque chose de différent de ce qui existait avant la Covid.
Alors, mon unité, elle existait bien sûr avant. Moi, je dirige une unité de médecine interne qui a pour vocation de prendre en charge des patients qui viennent des urgences. Donc en fait, toute l'année, je m'occupe de patients via les urgences. Mmh. Donc naturellement, quand il y a une période épidémique, que ça soit la grippe ou que ça soit le Covid, naturellement, je bascule en mode grippe ou en mode Covid. Donc mon équipe est assez habituée à ça. Je rejoins vraiment l'autre interlocuteur quand il disait qu'il faut... qu'il y a vraiment un malaise au sein des équipes, que les équipes ont vraiment un besoin de sentiment d'appartenance. Moi, j'ai des filles qui sont jeunes, qui parfois arrivent dans mon unité avec moins de 2 ans de DE et qui arrivent à... Il y a un vrai sentiment d'appartenance, il n'y a pas de découragement, il y a un vrai goût des soins, mais elles ont l'impression d'être reconnues dans leur travail. Donc je pense que l'équipe médicale favorise ça, de même que l'encadrement favorise ça, et nos administratifs, je suis pas du tout en guerre contre les administratifs, mais les administratifs reçoivent des ordres de certains organismes, dont certains qu'on appelle l'ANAP. Vous avez des schémas.
Vous pouvez développer, parce que l'ANAP, pour les gens comme moi...
Oui, c'est un organisme en fait qui cherche à améliorer la performance dans les hôpitaux. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, on décrète qu'il faut 2 infirmières pour 28 lits, par exemple, quelle que soit la spécialité. Et en effet, on considère que donc une infirmière est interchangeable, quelle que soit la spécialité. et on peut aller trimballer une infirmière d'un service à l'autre, ça pose problème à personne. Et ça, je crois que c'est d'abord, un, c'est profondément mépriser le métier de l'infirmière, et moi je m'élève vraiment contre ça. Je suis totalement opposée à la mutualisation, parce que là encore, c'est ne pas reconnaître leurs spécificités, leurs compétences dans telle ou telle spécialité. Donc ça, c'est un malaise qui dure et qui s'aggrave. On cherche à rentabiliser le personnel, que ça soit pour les infirmières, mais que ça soit également pour les aides-soignantes. Mmh.
Une des questions qui va se poser en cas d'augmentation de cette fameuse deuxième vague, c'est une question qui est issue des rumeurs ou des discussions de la première vague, en particulier sur la question du tri des malades. Est-ce que il y a justement une crainte justement que cette question de savoir qui est le plus gravement malade, qui pourrait en cas justement d'entrer dans un service de réanimation avoir plus de chances d'en sortir ou pas? Est-ce que c'est une question qui est une sorte de, disons, de rumeur qui court partout, ou est-ce que c'est une question qu'il faut se poser, Bérangère Arrojo?
Très concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est une question qui ne se pose pas du tout. Je pense qu'il faut tout faire pour qu'on n'ait pas à faire ce tri-là. Je ne pense pas qu'à la première vague, il y ait eu un tri de cet ordre-là qui a été fait.
Ça tenait de la rumeur, vous voulez dire?
Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, même hors Covid, on ne met pas tout le monde en réanimation. Parce que ben, quand on sait que les patients derrière n'ont pas la chance de pouvoir récupérer, d'avoir un avenir heureux, entre guillemets, bien sûr qu'on ne les prend pas en réanimation.
Et donc ça fait partie effectivement des données qui ne sont pas spécifiques à ce qu'on connaît au moment de la Covid, mais d'une certaine façon c'est
un tri qu'on fait, que les médecins font tous les jours.
Michael Perromor, sur ce point ou un autre, par rapport à votre ouvrage sur Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit, cette nécessité profonde de rechanger la donne, très brièvement, qu'est-ce que vous auriez à dire?
Moi, je crois que la première des choses, effectivement, c'est de reconstituer des équipes. Voilà. On est passé d'un système mandaridal qui a montré ses limites, avec beaucoup d'abus de pouvoir, à un système très très caporalisé, très dépersonnalisé, où les personnels ont été trop mutualisés. On a créé énormément de strates administratives. Il y a trop de commissions. On ne sait pas qui décide. Il y a énormément d'inertie. Je pense qu'il faut redonner du poids au service. Alors c'est difficile, puisque ça va à l'encontre de ce qui a été fait depuis 20 ou 30 ans, mais il faut créer des structures autonomes à la fois dans leur gestion et même dans leur budget. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un chef de service qui ait à nouveau le pouvoir, et bien sûr il serait épaulé par un cadre administratif, et il marcherait en binôme. Il faut remettre le curseur au milieu, en fait.
Tout simplement. L'église au milieu du village, comme on disait dans le temps, en particulier quand on faisait du rugby. Marie Denier, sur ce point, puisque effectivement, cette question de l'administration pèse beaucoup, alors que vous êtes vous-même directrice générale adjointe d'un CHU, pèse beaucoup dans le discours des soignants en général, très brièvement.
Oui, c'est vrai. C'est un sujet dont on débat souvent et qui est beaucoup revenu ces derniers mois. L'hôpital, c'est un univers extrêmement normé, sans doute un peu trop. Nous sommes allés très loin dans la prescription, les normes. Et ce à quoi aspirent les hospitaliers aujourd'hui, c'est ce qui a été aussi retranscrit par les autres invités, c'est plus de liberté. Plus d'autonomie, c'est faire confiance aux hospitaliers, parce que ils sont globalement très solidaires, ils sont innovants, ils s'adaptent très bien à beaucoup d'attentes des patients, des usagers, des familles. Et nous avons besoin d'avoir un cadre pour expérimenter, pour travailler avec les autres aussi, en dehors de l'hôpital, qui soit sans doute plus souple. Voilà, je pense que la reconnaissance, ça passe aussi par la confiance qu'on met dans les agents, dans les professionnels. Merci. Et dans la liberté qu'on leur donne d'agir.
Merci beaucoup.
Donc c'est ce que nous essayons de défendre et que nous portons aujourd'hui dans nos établissements.
Il faut que nous concluions. Merci beaucoup Marie Denier, merci à Véronique Weidt, à Bérangère Arrojo, ainsi qu'à Michael Perromor. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Imane Gilles. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Dans le temps du débat demain, comment enseigner l'arabe du futur?